Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Et en ce mardi, vous le savez, désormais on remet en ligne chaque jour l'un des témoignages recueillis par Agathe Le Caron dans la séquence « Les yeux dans les yeux » de l'émission de la Maison des Maternelles, donc sur France 2, si vous l'avez raté, le replay est là pour vous faire entendre ou réentendre donc ce témoignage. Et aujourd'hui justement, un témoignage très fort, un témoignage poignant, je vous préviens tout de suite. Alors que s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre, vous allez entendre Aurélie Sylvestre. Aurélie dont le compagnon Mathieu est mort ce soir-là au Bataclan. Le couple avait déjà un fils qui avait 3 ans à l'époque et Aurélie était enceinte de 5 mois. Alors comment rester debout malgré l'horreur? Comment élever ses enfants après ça? Aurélie Sylvestre.
Aurélie Sylvestre, merci d'être dans la maison des maternelles pour nous parler de votre histoire 6 ans après. Vous avez perdu le père de vos deux enfants, Mathieu, donc le 13 novembre 2015 au Bataclan, je le disais tout à l'heure. Votre fils, à l'époque, il avait 3 ans seulement. Vous étiez enceinte de 5 mois d'une petite fille. Alors évidemment, on imagine sidération au début, et puis ensuite vous avez dû apprivoiser l'absence, prendre soin de Gary, mettre au monde Thelma, gérer votre deuil, gérer celui des enfants. On n'arrive même pas à imaginer comment vous avez fait. Merci d'être avec nous pour évoquer cette vie, celle de vos enfants depuis ce drame, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est comment vous êtes reconstruits tous ensemble. On va revenir un petit peu en arrière, parce que évidemment, on imagine tous, après que vous ayez appris la nouvelle, il faut l'annoncer aux enfants. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à Gary, puisque donc à l'époque il avait 3 ans.
En fait, on a appris le décès de Mathieu dans la nuit du 14 novembre. Donc ça faisait déjà 24 heures qu'on l'attendait. En fait, donc mes parents étaient chez moi, ma sœur aussi avec son mari de l'époque. Et évidemment, je me souviens d'une nuit d'une grande agitation. On était déjà épuisés par les 24 heures d'attente, etc. Donc on était un peu confus. Et en fait, c'est ma sœur qui a eu une super bonne idée. Elle a dit, on appelle le SAMU, on prend conseil, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a appelé le SAMU, qui nous ont dit qu'on pouvait laisser dormir Gary. Parce qu'au début, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On le réveille, on le réveille pas? Si on le réveille, on lui dit quoi? Quel mot? Comment? Voilà, donc le SAMU nous dit d'attendre le lendemain, qu'on peut bien lui laisser une dernière nuit de quiétude et que voilà, le lendemain, il sera temps de lui dire. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu le lendemain. Je lui ai dit tout simplement, en fait, je l'ai installé sur le canapé du salon et je lui ai dit que son papa était mort, en fait. Je ne voulais pas du tout lui cacher la vérité, j'en étais pas capable, en fait.
Quand vous dites ça, vous dites que vous n'avez pas du tout utilisé de coquetterie de langage, il n'y a pas eu « il est au ciel », il est…
Non. Il a disparu, il est parti, un truc carrément
à tout
avoir avec les étoiles. Je lui ai dit qu'il était mort, ouais. Je voulais qu'il sache de quoi il était question et qu'il sache tout de suite contre quoi on allait devoir se battre, quoi. Parce que voilà, on commençait un combat. Mais après, voilà, il y a les mots et on les utilise comme on peut. Dans ce moment-là, on est un peu de toute façon choqués.
Vous parlez de combat, donc il y a le combat, effectivement, déjà, il y a Gary, quoi, qu'il faut porter. Je ne parle même pas de vous-même, hein. Mais il y a la grossesse aussi. Enceinte de 5 mois, donc il a fallu vivre la fin de grossesse dans le deuil, dans l'absence. Comment est-ce que vous avez pu apprivoiser toutes ces émotions qui sont déjà liées à la grossesse, naturellement?
Alors, il y a le contexte, déjà. C'était tellement tendu, tout était tellement agité. Moi, au milieu de tout ça, effectivement, j'ai dû gérer la perte de Mathieu, accompagner Gary, mener à terme ma grossesse. C'était très compliqué, c'était un choc très grand. Et en fait, ça m'a plongée dans un état, je pense, de sidération qui m'a mis dans une sorte d'hypnose qui a fait que, dans un premier temps, j'ai fait les choses assez machinalement, en fait. Donc, j'ai réussi à avancer comme ça, de façon un peu automatique. Et puis, en même temps, s'est développé chez moi un instinct de survie vraiment très grand qui m'a permis de faire face, en fait. Je me souviens que je disais que j'avais l'impression d'être sur une planche de surf et de voir arriver une vague beaucoup trop grande, quoi. Et je me disais, bon, voilà, je suis sur ma planche, je suis sur mes appuis, je tiens bon. Et voilà, je surfe sur les émotions, en fait.
Je
les ai prises les unes,
voilà.
Oui, ça, c'était très important. C'est ce que j'ai mis en place et qui m'a beaucoup aidée. C'était de me dire, voilà, un jour après l'autre, interdiction de voir plus loin que le lendemain, parce que ça aurait vraiment été trop compliqué. Je pense que ça m'aurait fait sombrer d'anticiper ce que j'allais devoir surmonter. J'aurais probablement fait un refus d'obstacle. Mais donc, voilà, un jour après l'autre et à l'intérieur de ces 24 heures, voilà, me concentrer sur des petites choses.
Et le jour de l'accouchement, alors, qu'est-ce qui vous a tenu la main? Parce que ça, c'était quelque chose auquel vous deviez penser quand même. C'est un moment…
Ouais. Oui, au milieu de toute cette folie, effectivement, il a fallu aller accoucher à un moment donné. En fait, moi, je vis à Paris. Quand Mathieu est mort, j'ai assez vite compris que ça allait être compliqué de maintenir le projet d'accoucher ici. Donc, j'ai décidé de retourner là où mes parents vivent. Ils vivent à la montagne, en Savoie, dans un village qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice, où je suis née. Donc, un mois avant le terme, je suis partie. Je suis retournée chez mes parents, en fait. Je suis redevenue un enfant. Au moment d'enfanter, c'était une bizarrerie de plus. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Et en fait, j'ai contacté sur place une sage-femme qui s'appelle Laure, que j'aime d'amour, qui est devenue vraiment une amie très proche. Et qui est venue me voir le soir où j'ai eu des contractions, qui m'a auscultée, qui m'a mis dans sa petite voiture. Et on est parties toutes les deux pour l'accouchement.
Donc, vous étiez là, elle et vous?
Ouais, toutes plus les deux autres sages-femmes. Mmh. Et puis, dans ces moments-là qui sont tellement intenses, il y a plein de fantômes bienveillants qui sont là. Et donc, il y avait évidemment Mathieu. C'est lui qui m'a tenu la main, je pense, à ce moment-là. Je devais avoir ma grand-mère. Enfin, j'ai senti...
C'était un bon souvenir. C'était un beau moment. C'était beau.
C'était merveilleux. Vraiment, c'était évidemment très dense. C'était un moment que je redoutais. J'étais très concentrée. Je me souviens de m'être dit, bon, voilà... On y est, quoi. Il y avait un contexte d'angoisse, quand même. Et puis, en fait, c'était une des plus belles nuits de ma vie.
Comment est-ce que vous faites pour pérenniser le souvenir de Mathieu avec Gary et avec votre fille qui ne l'a pas connu? Vous en parlez souvent?
Oui, on en parle souvent. Oui, c'est très important pour moi, quand même, de maintenir le contact. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ce mot-là, mais on en parle souvent. Moi, j'en parle de façon très légère, parfois un peu moins. Donc, c'est parfois très cool et puis parfois un peu plus douloureux, mais on en parle tout le temps. Et puis, voilà, je fais aussi vivre le souvenir en parfois disant des choses qu'il aurait pu dire. Je le connaissais vraiment très bien et on était très différents. Donc, parfois, je dis des trucs qu'il aurait pu dire ou je prends des décisions qu'il aurait prises. C'est un peu un truc de moi à moi-même. Et puis après, le souvenir, on l'alimente aussi parce que mes enfants passent beaucoup de temps avec leurs grands-parents paternels, les parents de Mathieu, dont je suis très proche encore, qui ont été des super parents et qui sont devenus des grands-parents extraordinaires. Donc ça aussi, c'est important pour nous tous, quoi.
Ouais, vous avez beaucoup de monde qui fait bloc autour de vous.
Ouais.
Est-ce que vous avez parlé à vos enfants des circonstances de la mort de Mathieu? Parce que c'est une chose d'annoncer le deuil déjà de leur papa, enfin en tout cas en ce qui concerne Gary. Mais nous, en tant que parents, qui essayons de protéger nos enfants coûte que coûte des horreurs de ce monde, là, en plus, quand ça concerne leur père, est-ce que vous avez réussi à trouver des mots?
Oui, bah, j'avais pas tellement le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas regarder son enfant et lui dire « papa est mort » sans lui dire ce qui s'est passé. Et là encore, je pense que... Enfin, voilà, moi, c'était totalement impossible d'envisager d'édulcorer la vérité. Donc, j'ai adapté, je crois, mes mots à l'âge de Gary, qui avait 3 ans. Donc, je lui ai simplement dit que son papa était allé à un concert et que, voilà, qu'il y avait des méchants qui étaient venus, qui avaient tué plein de gens, dont son papa, et que, voilà, c'était...
Et aujourd'hui, vous lui en parlez un petit peu plus concrètement? Il pose des questions ou pas?
Oui. Oui, il pose des questions. C'est pas évident d'ailleurs de faire évoluer le récit en fait, mais c'est lui qui me le demande. Donc l'histoire s'étoffe petit à petit.
Alors aujourd'hui, presque 6 ans après, comment est-ce que vous allez? Déjà, vous êtes debout. Oui. Pour quelqu'un comme moi, c'est déjà hallucinant de vous voir debout comme ça, souriante.
Non, mais on a une force qu'on ignore. On va bien tous les trois. C'est pas toujours simple. Mais on va bien. On a beaucoup parlé de notre histoire. On l'a intégrée, on l'a acceptée, on l'a un peu métabolisée. En fait, elle fait partie de nous. On va bien.
Vous avez refait votre vie.
Oui, j'aime bien cette.
Oui, j'aime cette question un peu franche. Alors sinon.
Je passe.
Ouais. Non, mais parce que c'est un vrai sujet, parce que j'imagine qu'il y a la culpabilité, surtout quand c'est un drame aussi terrible. Qui fait partie de l'histoire de tout le monde en plus. Donc, il y a les regards. Vous avez rencontré quelqu'un combien de temps après?
J'ai rencontré quelqu'un relativement rapidement après, même, enfin, certains diront très rapidement, mais moins de 2 ans, en fait, après la mort de Mathieu. Je l'ai rencontré dans une librairie. C'était pas du tout prévu. C'était pas quelque chose que j'envisageais. C'était pas quelque chose que je souhaitais. Mais voilà, ma vie a été percutée par cet homme. Et j'en ai été très heureuse pour moi, en fait, de me dire, quelle bonne nouvelle, mon cœur est intact. Et voilà, parce qu'il y a différentes larmes, en fait, après ce choc. J'ai pleuré, j'ai eu des larmes de la perte, du manque de Mathieu. Et puis j'ai eu aussi pas mal de larmes sur mon sort, en fait. Je me disais, mais ma pauvre, t'as 35 ans, t'es veuve, t'as 2 enfants. Enfin, ça n'a aucun sens, tout ça. Et donc, il a, au-delà du fait qu'il m'a reconnectée à une féminité que j'avais perdue, parce que j'étais plus qu'une veuve et une mère, il a aussi séché ces larmes-là, quoi.
Et donc, il n'y a pas eu de culpabilité?
Alors, pour moi, non, il n'y a pas eu de culpabilité, non. Non, j'ai vraiment été contente pour moi. C'est vraiment quelque chose de sentir ses joues qui rosissent à nouveau, quoi. C'est,
des papillons.
Ouais, je me suis dit que je méritais bien ça, quoi. Donc j'étais très heureuse pour ça. Et puis, c'est lui, en fait, qui un soir, assez vite, en fait, m'a mis sur le sujet de la culpabilité, parce qu'elle rôde, hein, quand même, autour de ces histoires. Et en fait, j'y avais pas vraiment réfléchi, mais je lui ai dit tout de suite, tu sais, moi, je trompe personne. Et je trompe personne. Donc tout ça est assez...
Naturel,
ouais. Mm-hmm. Pour moi en tout cas. Ouais.
Alors je sais que vous êtes très investie dans la cause des jeunes veuves, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, mais c'est vrai, c'est un sujet, et pourtant il y en a quand même beaucoup, évidemment. C'est un peu la raison de votre présence sur ce plateau. Quel message est-ce que vous pourriez passer à ces jeunes femmes qui ont perdu prématurément leur conjoint, ces jeunes hommes aussi? Est-ce que vous avez des conseils?
Alors, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. Je n'ai pas toujours su où me placer pour y répondre, parce que voilà, j'ai compris en fait récemment qu'effectivement, des gens qui perdent leur conjoint jeune, il y en a plein et on n'en parle pas. Moi, je suis une veuve qui est identifiée, on m'a vue et donc on me demande parfois on me demande des conseils, etc. Mmh. C'est toujours délicat pour moi de donner des conseils, parce qu'il n'y a évidemment pas de recette qui fonctionne pour toutes les histoires ou pour toutes les personnalités. Moi, ce que je sais, c'est que je peux témoigner, c'est ce que je fais ici. Si ça aide quelqu'un, je suis ravie. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, d'ailleurs. Je peux dire ce qui m'a aidée, moi. Je sais que y avait ça, ce truc des 24 heures. Je ne vois pas plus loin que les 24 heures. À l'intérieur de ces 24 heures, je me concentre sur des petites choses. Moi, j'ai été suivie par un psy tout de suite après les attentats. Et ça, je le conseille vraiment aussi.
Oui, il faut se faire accompagner.
Ouais. En fait, c'est un tel traumatisme en fait, de perdre son conjoint, avec ou sans enfant d'ailleurs, qu'à un moment donné, c'est quand même bien d'avoir un moment pour soi où on s'arrête, où on réfléchit avec quelqu'un dont c'est le métier et qui n'est pas un proche. Voilà. Le deuil, c'est un peu une route de montagne accidentée, quoi. C'est quand même pas mal d'avoir de temps en temps un copilote qui maîtrise le 4x4 dans certains virages, quoi. C'est vraiment ça. Et puis... Puis je sais pas, ce que je peux dire aussi, c'est de prendre soin de soi, en fait. Au milieu de tout ça, faut essayer de pas trop s'oublier, en fait. Et ça, c'est pas évident. Au début, on est happé par la paperasse, par la douleur des autres, par les enfants qu'il faut aider. Et en fait, moi, j'ai pris conscience de ça, pas tout de suite, mais quand j'en ai eu conscience, ça a quand même été important pour moi de me resserrer autour de ma peine, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui aide les enfants. C'est que pour être une bonne mère, faut d'abord être une femme épanouie. Et pour ça, il faut du temps et c'est du boulot, en fait.
Ouais. Merci Aurélie Sylvestre d'être venue ce matin. C'est une leçon de vie, évidemment, pour tous les parents qui nous regardent et qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient. Je rappelle votre livre, Nos 14 novembre, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. Alors, Hélène Romano, que je vais vous présenter, c'est une psychologue spécialiste du deuil qui va répondre tout de suite à toutes les questions que vous vous posez, notamment, je pense, l'annonce, hein, parce que ça, c'est un moment clé. Comment on parle aux enfants de toutes ces horreurs? Merci mille fois,
merci,
Aurélie.
À très vite. Merci.
Oui, excusez-moi, je suis un peu perturbée par ce témoignage, surtout qu'elle est tellement intelligente, intense, je trouve qu'elle a une telle analyse que c'est vraiment impressionnant. Bonjour Hélène Romano.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des traumatismes. Vous avez écrit beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet du deuil, comme « Accompagner le deuil en situation traumatique ». C'est aux éditions Dunod. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer le deuil brutal d'un de ses parents à un enfant ou d'un grand-parent, puisque dans la logique des choses, à un moment, on va tous devoir le faire. Alors, on parlait tout à l'heure des coquetteries de langage, ça serait notre premier réflexe, est-ce que c'est le bon ?
Alors, le premier réflexe, ce serait d'essayer de médiatiser, c'est-à-dire de ne pas d'emblée se précipiter à annoncer et de bien recadrer le fait que c'est un médecin qui fait le constat de décès. Papa a eu un accident très grave. Le docteur qui s'occupait m'a dit que c'était très grave. Son cœur s'est arrêté.
C'est le médecin qui l'a dit, c'est pas nous qui le disons.
C'est ça, parce que chez l'enfant, celui qui dit qui est. Donc si moi directement je dis papa est mort, comme témoignage de risque, on peut tout à fait comprendre et à T0 on fait ce qu'on peut comme on peut. Mais dans l'après-coup, si on pouvait anticiper, ça serait préférable d'essayer de dire voilà, le docteur a dit que, ce qui est une réalité. Le cœur s'est arrêté parce que mort chez un enfant, papa est mort, mais il m'emmène au judo ce soir. Ça ne veut rien dire. Ça. Alors que le cœur, chez un tout petit, ça a du sens. Le cœur s'est arrêté, le cœur est cassé, le cœur était malade. Le cœur s'est arrêté et le docteur m'a dit que papa était mort. papa est mort. Et le mot mort, en effet, est important à prononcer. Il est au ciel, il est parti, il
va revenir. Alors ça, on oublie, il est au ciel.
On oublie parce qu'il est au ciel. Alors, on a des enfants qui avancent après comme ça, qui mettent la tête, les mains sur la tête parce qu'ils ont peur.
Mais peu importe l'âge, même peu quand importe, il a 2 ans.
Non, peu importe l'âge. Le mot mort, il est important. Décédé, ils ne comprennent pas. Parti, ben, il est parti, il va revenir. Ouais. Je n'ai pas été gentille, pourquoi il est parti?
C'est vrai qu'il est parti, c'est quand même une expression, ouais, même pour les adultes.
Il a disparu, ça paraît aussi.
Il s'est endormi. Ouais. Bah oui, bah, bonjour après les troubles du sommeil. Ouais. On sait dans le suivi des enfants que le préférable, c'est de pouvoir utiliser le mot mort, même s'il est violent, il est dur. Et une petite marche avant, c'est le cœur s'est arrêté. Et ça, c'est universel. Les enfants, tout petits, le comprennent. Les plus grands aussi, même des adultes sous le choc. Le cœur s'est arrêté. Ah oui, donc c'est grave, il est mort. Voilà. Alors que si on dit qu'il est mort d'emblée, un petit 3 ans mort.
Hélène Romano, on a reçu une question envoyée pour vous en vidéo par Laurence, regardez.
Bonjour, je suis Laurence et je suis maman de 2 garçons de 13 et 14 ans. Quand une maman refait sa vie, comment expliquer qu'on n'oublie pas le père? Merci pour votre réponse.
Question que beaucoup de mamans endeuillées se posent. On continue sa vie, on refait, on continue sa vie. C'est aussi expliquer aux enfants qu'il y a une force de vie. La mort fait partie de la vie. Le deuil, ce n'est pas l'oubli. Papa, il est dans nos cœurs, il est dans nos pensées. Aurélie disait, on en parle. Des fois, ça fait du mal, des fois, c'est un peu plus facile.
Ça peut devenir un tabou dans certaines familles. On n'ose plus parler.
Tout à fait. Et on sait, dans le suivi des enfants, quand on n'a pas parlé du parent mort quand les enfants étaient petits, ils ont oublié. Alors que quand on en parle, sans en faire un héros, mais on en parle de façon des fois drôle, de façon des fois émouvante, de faire papa, il serait là, il dirait ci, il ferait ça. L'enfant inscrit dans sa mémoire l'aspect sensoriel. Donc, c'est très important d'en parler naturellement, comme le disait Aurélie. Et quand on continue sa vie, de ne pas le vivre avec culpabilité, d'expliquer aux enfants, c'est pas parce que j'ai un nouvel amoureux que j'oublie papa, c'est un nouvel amoureux dans une continuité de vie. La vie est un continuum avec des épreuves, des moments heureux, et c'est aussi une force de vie que de leur dire, voilà, on va pas s'arrêter à un décès, à une mort tragique. La vie, elle est aussi faite de moments heureux.
Hélène Romano, vous êtes prête pour répondre à toutes les questions de nos internautes?
Il y a Jeanne qui dit « J'ai perdu mon mari il y a 2 mois. Je voulais savoir s'il était conseillé d'emmener régulièrement les enfants sur sa tombe. »
Alors, il est conseillé de leur proposer. On n'impose pas ces visites-là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dans les cimetières ou dans les columbariums de façon très gaie. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est important pour eux. C'est un lieu de mémoire, qu'ils comprennent qu'on n'oublie pas et qu'il y a un espace, il y a un endroit. Ça peut être un columbarium, ça peut être un endroit où les cendres ont été dispersées, ça peut être un cimetière où la personne décédée est. C'est la maison des morts, c'est le lieu de recueillement. Ça, c'est important, et on peut y aller, on leur propose. Et ce qui est important, ce n'est pas de leur imposer. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas.
Vous dites on peut y aller, et ça peut être gai.
Ça peut être très gai.
Là, c'est tout récent, ça fait 2 mois, donc je pense
que
c'est compliqué.
Oui, mais même pour des petits qui n'ont pas encore intégré que la mort, c'est pour toujours. On va tous mourir, et ça ne s'attrape pas. Ça, c'est vers 10-11 ans. Pour un petit, aller au cimetière, il n'a pas encore intégré que ça serait pour toujours. Donc, il ne va pas y aller de façon aussi triste qu'un adulte. C'est important que les adultes s'autorisent à être tristes, parce que c'est naturel, c'est la vie. Et ça permet aussi, après, à l'enfant de pleurer. Parce qu'après, les parents disent, bah, il ne pleure pas. Oui, mais si vous ne pleurez pas, il ne risque pas de pleurer. Enfin, c'est le cercle infernal. Et ils peuvent y aller, mettre des fleurs, mettre des messages. Au moment de Noël, ça peut choquer. Il y en a qui mettent des petits sapins, des petits cadeaux. C'est la vie aussi, un cimetière. C'est une continuité dans
choquer,
la vie.
Après, chacun fait comme il peut. Enfin,
je suis bien d'accord avec vous, mais vous avez certaines personnes qui sont choquées par ça. Ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de faire ce qu'il a envie.
Ouais. Delphine nous demande, quand un enfant ne verbalise pas sa tristesse lors d'un deuil, quels sont les signes qui doivent alerter?
Compliqué de lui répondre là en 2 minutes. Il y a des signes très visibles à externaliser. L'enfant va être en retrait, ne plus jouer ou avoir des jeux où il répète « papa qui a fait un arrêt cardiaque, papa qui tombe ». Des jeux bizarres, ça doit alerter. Une rupture dans le comportement. Mais on a un très grand nombre d'enfants, surtout des petits, qui vont être hyper adaptés, ce qu'on appelle en faux self, et ils ne vont rien montrer. Et là, le parent, il ne faut pas qu'il hésite à utiliser ce qu'il ressent. Par exemple, quand je te vois comme ça, rigoler, plaisanter, mettre la musique à fond, kiffer des musiques ou je ne sais quoi.
Être dans la kiffance.
Être dans la kiffance, je ne sais pas encore. Être dans la kiffance, comme si papa n'était pas mort, je me dis que peut-être tu n'es pas triste ou que peut-être tu prends sur toi pour ne pas montrer que tu es triste. Et utiliser ce qu'on ressent, ça c'est important pour lui dire « je ne suis pas dupe ». On a beaucoup d'enfants qui ont thérapie, nous disent qu'ils font face à leurs proches sans pleurer pour ne pas que les autres s'effondrent. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes, ils ont une autre façon de gérer leur deuil. Ouais.
Vous disiez tout à l'heure que l'enfant ne visualise pas la mort. À partir de quel âge, en fait, ils comprennent réellement?
Dans les études nord-américaines, parce qu'en France, on n'a pas pu en faire, c'est 9-10 ans. Ça nécessite à la fois de se représenter le temps, d'avoir la maturité cognitive pour se représenter la temporalité, l'espace, etc. Avant 9-10 ans, c'est compliqué. Donc avant 9-10 ans, on n'est pas mort pour toujours, on ne va pas tous mourir. Et surtout, si papa meurt, maman va mourir. D'où l'importance d'accompagner les endeuillés, les parents, parce que l'enfant a très peur de ça, mais il ne le dira jamais.
Charline, à l'instant, qui nous envoie comment préparer un enfant de 2 ans, donc un tout petit, au décès d'un parent suite à une longue maladie. D'ailleurs, ce qui est valable pour les parents, pour les grands-parents aussi.
Oui. Alors, c'est quelque chose qui est très différent d'une mort violente, comme les attentats dont on a parlé tout à l'heure, parce que quand quelqu'un est malade et qu'il a sa raison, sa pensée, il peut préparer lui-même son départ. Moi, j'ai eu des papas qui ont fait des films, qui ont laissé des petits cadeaux, des messages, des lettres, qui des fois choisissent le prénom de l'enfant avant. Qui ne naissent si la maman est enceinte, ça fait aussi partie des choses importantes à penser. C'est différent si le proche, le parent, le grand-parent n'a plus toute sa tête. Et là, c'est important pour le parent, même si l'enfant est petit, de lui dire, voilà, je suis triste parce que papy, il est très malade et il est très, très, très malade. Les médecins ne peuvent plus le soigner. Et peut-être qu'un jour, je vais apprendre que son cœur s'est arrêté et que papy, il est mort. Donc, c'est pour ça que je suis triste. Et l'enfant ne va pas forcément comprendre ce que ça signifie mourir, mais il va comprendre que son parent est triste, pas à cause de lui, mais parce qu'il se passe quelque chose de douloureux dans la famille.
Alors, on a une question de Paul qui dit « Mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, mais j'ai l'impression que mon deuil affecte mes relations aux hommes. Est-ce que c'est courant ?»
C'est courant, c'est ce qu'on appelle les deuils compliqués. C'est malheureusement assez fréquent quand l'enfant, l'adolescent endeuillé n'a pas été suffisamment accompagné ou les proches ont fait ce qu'ils ont pu, mais peut-être pas de façon plus ajustée possible. Ce que j'aurais envie de lui dire, c'est qu'on peut toujours reprendre ça avec un travail thérapeutique, il y a des thérapeutes spécialisés, pour pas que le deuil, la peur de l'abandon, la peur de la mort, cette angoisse extrêmement forte qui peut être envahissante, pas chez tous les enfants endeuillés, certains ont une force de vie incroyable, mais chez certains, n'hypothèque pas leur devenir et leur permettre d'en faire une force et de ne pas être handicapé par ça.
On a une bonne question de Marion qui dit « On parle souvent des étapes du deuil, est-ce qu'elles existent réellement ?» C'est l'heure de se rappeler de vos cours de psychologie.
Alors, pas d'étapes du deuil, on n'utilise plus ce terme-là. Les étapes du deuil avaient été proposées par une psy qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross pour des Occidentaux, par des Occidentaux. La représentation du deuil, on est interloqué, on est en colère, après on est triste, après on accepte. Déjà, le mot accepter, il est complètement banni maintenant. On s'adapte, c'est très différent. Et ces étapes-là, on s'adapte. Je ne connais pas une personne endeuillée qui accepte la mort de son proche. Mmh. On s'adapte, on apprivoise, on fait ce qu'on peut. Accepter, on passe à autre chose, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a, mais globalement...
C'est hyper culpabilisant.
Globalement, on est au niveau de la communauté internationale avec le terme « on s'adapte ». On apprivoise. Et on n'oublie pas, bien évidemment. Donc, ces étapes-là sont valables chez des Occidentaux. Chez d'autres personnes de culture traditionnelle, c'est très différent. Pour un enfant qui meurt, ça peut protéger les autres enfants. Donc, ça peut paraître étonnant, mais il n'y aura pas du tout les mêmes modes d'expression de la souffrance. Et c'est important de le savoir pour ne pas stigmatiser des gens qui ne vont pas réagir comme vous l'imaginez. Il y a des gens qui, face à un corps, vont être très silencieux, d'autres qui vont être très festifs, chanter pour accompagner l'âme du mourant. Tout est respectable. Donc, les étapes du deuil, comme le travail du deuil, ce sont des termes qu'on n'utilise plus trop.
OK.
Françoise nous demande si le syndrome post-traumatique de l'enfant est différent de celui de l'adulte.
Oui. Il est différent, il va être différent selon les âges de l'enfant, parce que l'enfant, c'est de 0 à 18 ans, si on est au niveau juridique. Un bébé a des manifestations très particulières au niveau du deuil, avec des régressions, avec des difficultés d'attachement. Un enfant, il va être plus anxieux, il va manifester par des comportements souvent d'anxiété, difficultés à séparer, des jeux bizarres, un retrait, une perte des acquisitions. Un adolescent, il va plus être dans l'opposition, dans l'isolement, pour faire court. Donc, les manifestations sont très différentes. Un point très important, ça peut se manifester tout de suite, ou des fois des mois, des années après, à des moments importants à l'adolescence, quand ils se marient ou qu'ils sont en couple, et quand ils deviennent à leur tour parents. Oui. On a des parents qui s'effondrent quand leur enfant a l'âge qu'ils avaient au moment de la perte de leur.
On parlait tout à l'heure des attentats terribles du Bataclan, du 13 novembre. Vous en avez vu beaucoup, des enfants de près ou de loin touchés par ce qui s'est passé. Oui. Sur les enfants qui n'ont pas forcément eu de proches dans les victimes, combien de temps ça a pris pour qu'il y ait pu ces traces chez ces enfants-là de... On parlait de traumatisme pour tous les enfants parisiens, Paris à Nice, Paris, tous les endroits qui ont été touchés à Strasbourg.
Les traces, elles sont toujours là. Simplement, elles sont pour certaines apprivoisées. On n'est pas passé à autre chose en oubliant. Les traces sont là comme des cicatrices. Le procès, certaines émissions qui rappelle aussi ce qui s'est passé, c'est important pour la mémoire.
Il faut se rappeler qu'à l'époque, après les attentats, il y avait des militaires devant les écoles, à Paris, mais pas qu'à Paris, etc. Oui. C'était anxiogène à souhait pour ces
gamins. C'était extrêmement anxiogène pour les enfants. Il y avait les fleurs au niveau des écoles, puis après la pluie, tout ça, c'était extrêmement triste. Il y avait l'angoisse d'autres attentats. Et puis après, il y a eu pour les Parisiens les dégâts faits suite aux manifestations qui étaient extrêmement anxiogènes pour des petits. Les voitures brûlées, enfin, c'était quand même une ambiance très particulière. Donc ça les a marqués. On ne peut pas dire qu'ils ont oublié, ils ont appris, et ils ont aussi appris de façon positive que les moments de bonheur, la vie, il ne faut pas du tout passer à côté, il faut vraiment les prendre quand ils sont là.
Alors, le deuil touche toute la famille. Alexandra, là, qui est concernée, nous dit « J'ai perdu mon mari il y a 6 mois. Depuis, mes beaux-parents sont extrêmement envahissants. Comment leur dire sans les blesser? Car j'ai besoin de me retrouver avec mes enfants. »
Elle peut utiliser ces termes-là, très simplement. C'est des termes tout à fait justes. Le deuil, c'est la réaction face à la perte, pas forcément la mort, hein, quand on a perdu quelqu'un, quelque chose. Et face à une situation amoureuse, on peut être en deuil si on a une rupture. Et on réagit tous de façon différente. Donc, utiliser avec ce qu'elle ressent, dire, voilà, je suis très touchée par votre présence. Moi, j'ai ma façon à moi de réagir et j'aurais besoin d'un petit peu de temps de me retrouver avec moi-même. Je ne veux pas vous blesser, mais c'est important que je vous le dise pour éviter qu'il y ait des tensions. Le dire avec ces mots-là.
Formuler
en disant « je ». C'est important.
Question d'Anne-Laure qui vous demande, alors c'est une question qui est compliquée, comment ne pas culpabiliser alors qu'on est tombé amoureuse d'une autre personne très rapidement après, et ce d'autant plus qu'on connaissait cette personne avant le décès de son conjoint?
Alors la culpabilité, elle n'est pas souvent liée aux personnes, mais plus au regard sociétal. La personne qu'endeuillait la veuve ou l'enfant orphelin, il porte la mort et on a une espèce de croyance inconsciente que du coup, si je l'approche trop, je vais attraper la mort. C'est assez fréquent. Les mamans endeuillées ou qui ont perdu un bébé à l'école, tout le monde part sur le côté. C'est assez rare que les gens soient très présents. Les gens ne savent pas trop comment faire et très souvent, ils ont plus peur des gens endeuillés qu'autre chose. Donc les gens endeuillés sont souvent très très seuls. Donc quand la vie revient, c'est une continuité, c'est poursuivre sa vie. Donc si elle inscrit ça dans une continuité de vie, avec l'idée qu'elle ne va pas oublier, elle ne va pas trahir, c'était peut-être le meilleur ami. Moi, j'ai vu des patientes qui sont mises avec le frère de leur mari décédé. La culpabilité, c'est quelque chose qui est surtout renvoyé par la société. À prendre le bonheur là où il est, vivre avec ce bonheur-là, c'est aussi important. Si on a des enfants, c'est une force de vie qui est fondamentale. Mmh.
Merci beaucoup Hélène Romano de venir parler si simplement de ces sujets si compliqués.
Voilà, un grand merci à Hélène Romano d'être venue nous voir et bien sûr encore un grand merci à Aurélie Sylvestre. On rappelle le titre de son livre, Nos 14 novembre. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite à toutes, à tous une très bonne journée. On se retrouve demain à partir de 9h25 sur France 2.